chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la sainteté. Nous arrivons à l'étude numéro 11 et le titre sera « La sainteté de Dieu ». Il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit « Soyez saint, car je suis saint ». Chers amis, Dieu appelle tout chrétien à mener une vie sainte. Je n'ai pas dit que c'est facile. Bien sûr que non. Mais c'est possible. Il n'y a aucune exception à cet appel qui ne se limite pas aux prêtres. Ça ne se limite pas du tout, simplement pour les prêtres, pour les pasteurs, les missionnaires, ou à quelques enseignants du catéchisme particulièrement consacrés. Non, chaque chrétien de chaque nation, qu'il soit riche ou pauvre, noir ou blanc, cultivé ou ignorant, influent ou totalement inconnu, est appelé à être saint. Le plombier chrétien, le banquier chrétien, l'humble ménagère chrétienne, le puissant chef d'État chrétien, tous sont appelés à être saints. Donc cette exigence de sainteté, elle se fonde sur le fait que Dieu lui-même est saint. Et puisqu'il est saint, il nous demande de l'être aussi. Bien des chrétiens ont ce qu'on pourrait appeler une sainteté culturelle. Ils acquièrent le caractère et le comportement des chrétiens qui les entourent. Je connais des gens qui ont eu toute leur vie une conduite absolument remarquable. C'était pas mon cas. Et c'est vrai, cela. Aussi, je suis triste de constater, avec beaucoup de tristesse, je le répète, que certains que je sais qu'ils ont vécu une vie exemplaire pourraient ne pas être acceptés au ciel. Cela me rend vraiment terriblement triste. Mais voilà, c'est pas ni votre faute ni la mienne. Comme l'environnement est plus ou moins sain, ces gens-là sont plus ou moins saints également. Bien sûr. Quand j'ai dit, pas comme moi, il y en a que je connais qui ont eu des parents aisés. Ils ont pu faire des hautes études. Ils ont eu un exemple à la maison irréprochable. Sans Dieu, d'accord, mais irréprochable. C'était hélas pas mon cas avec un père qui s'est marié 5 fois. S'il n'y avait pas eu des miracles multiples dans ma vie, eh bien je serais pour l'éternité en enfer. C'est aussi simple que ça. Mais Dieu ne nous appelle pas à ressembler seulement à notre entourage plus ou moins sain. C'est à lui que nous devons ressembler, à Dieu. Et ça, ça change tout. La sainteté n'est rien de moins que la conformité au caractère de Dieu. Dans la Sainte Bible, ce mot évoque à la fois la majesté de Dieu, la pureté, la perfection morale de sa nature. C'est l'un des attributs essentiels. Elle est aussi nécessaire que son existence, sa sagesse ou son omniscience. Oui, tout comme il ne peut pas s'empêcher de savoir ce qu'il sait, il ne peut pas faire autre chose que ce qu'il sait être absolument juste. Nous-mêmes, nous ne savons pas toujours ce qu'il est juste et bon de faire. Parfois, une décision d'ordre moral nous tourmente profondément. Quel est le bon choix ? Nous demandons-nous. Et Dieu, bien évidemment, ne se trouve jamais dans une telle situation, car son omniscience supprime absolument toute incertitude quant au bien et au mal. Il arrive aussi que nous sachions clairement quelle est la bonne décision, mais que nous répugnions à la prendre. Il se peut que le bon choix exige de nous, de vous et de moi, des sacrifices, ou on peut bien dire, ou cela porte tout à coup quelque chose à notre orgueil, par exemple, quand nous savons qu'il nous faudrait confesser un péché à quelqu'un. C'est pas évident. Ou créer un autre obstacle. Voyez-vous, il n'est pas de même pour Dieu, pas du tout, qui lui n'hésite jamais et il fait toujours ce qui est juste et bon sans le moindre doute, évidemment. Une autre attitude serait donc contraire à sa nature profonde. La sainteté de Dieu, c'est donc la liberté totale de tout, absolument de tout mal. Un vêtement est propre quand il est exempt de toute tache, et l'or est pur quand on en retire toutes les impuretés. De même, la sainteté de Dieu, elle peut être considérée comme étant l'absence absolument totale de tout mal. L'apôtre Jean déclare « Dieu est lumière, de ténèbres il n'y a pas trace en lui ». Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 5. Quand la Sainte Bible parle ainsi de lumière et de ténèbres, elle se place au niveau moral. L'apôtre Jean nous dit que Dieu est absolument exempt de tout mal moral, car il est l'essence même de la pureté morale. La sainteté de Dieu se traduit donc aussi par sa conformité parfaite à son caractère divin. Toutes ses pensées et tous ses actes sont absolument en accord avec son caractère saint. Examinons par contre notre propre vie. Peu à peu, tandis que nous mûrissons dans la foi chrétienne, nous acquérons dans une certaine mesure un caractère chrétien. Nous faisons des progrès en honnêteté, en pureté et en humilité. Mais nous n'agissons pas toujours conformément à ce caractère. Il nous arrive de tomber dans le mensonge ou dans des pensées impures. Et après coup, nous sommes consternés d'avoir agi ainsi. Or cela n'arrive jamais à Dieu. Pourquoi ? Mais parce qu'il est saint, aussi bien dans son caractère que dans ses actes. Tel est donc le critère de sainteté qu'il nous impose quand il dit « Soyez saints, soyez saints, car je suis saint, moi, votre Père céleste. » La sainteté absolue de Dieu devrait nous donner une grande assurance. Si Dieu est parfaitement saint, nous pouvons être certains que son comportement à notre égard est toujours juste et parfait. Nous sommes souvent tentés de mettre en doute une action de Dieu et de nous plaindre de ce qu'il nous traite mal. C'est le mensonge du diable, cela. Le mensonge du diable que Ève a accepté en son temps pour pur argent comptant. Car le diable lui a dit en substance, « Dieu te traite injustement. » Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. Mais la nature même de Dieu l'empêche totalement d'être injuste. Puisqu'il est saint, alors tous ses actes sont saints. Il nous faut donc accepter par la foi que Dieu est saint, même si des circonstances adverses nous suggèrent le contraire. Se plaindre de Dieu, cela équivaut à nier sa sainteté et à dire qu'il n'est pas équitable. Le grand homme de Dieu, Stephen Charnock, affirme ceci. On offense davantage Dieu en niant la pureté de Dieu que en niant son existence. Dans le second cas, on met en doute son être. Or, dans le premier cas, on le décrit comme un Dieu déformé, repoussant et détestable. Quiconque dit que Dieu n'est pas saint est beaucoup plus injurieux que celui qui nie carrément son existence. Voyez-vous, reconnaître la sainteté de Dieu, ça c'est l'une des façons dont nous devons le louer. D'après la vision de l'apôtre Jean, qui est décrite en Die Offenbarung, Apocalypse, chapitre 4, les quatre êtres vivants dont il est parlé, qui entourent le trône divin, il ne cesse de répéter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les séraphins que Ésaïe voit en contemplant la gloire de Dieu ont également proclamé trois fois la sainteté du Seigneur. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Quand Moïse glorifie Dieu pour la délivrance des Israélites et pour la déroute des Égyptiens, il chante aussi sa sainteté. Il dit, « Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ?» Vous savez, les dieux d'Olympe, tous ces dieux qu'il y a aux Indes et ailleurs, eh bien, qui est comme toi, Yahvé l'Éternel, Dieu notre Père Tout-Puissant, qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable en ses exploits, et qui peut opérer des merveilles, est-il dit dans Exode chapitre 15, verset 11. Les saintes écritures désignent donc souvent Dieu par des termes tels que le Saint ou le Saint d'Israël, noté psaume 89, verset 18, et il y en a encore d'autres à noter, s'il vous plaît. Notez Ésaïe, chapitre 40, verset 25 et 43. Notez Osée, chapitre 11, verset 9. Notez Habacuc, chapitre 3, verset 3. Jérémie, chapitre 51, verset 5. Et Ézéchiel, chapitre 39, verset 7. Selon ce même Stephen Charnock, le qualificatif saint accompagne le mot pour Dieu plus souvent que tout autre attribut. La sainteté, c'est la couronne de Dieu. Imaginez un instant que celui-ci soit tout-puissant, omniscient, et disposant d'une connaissance parfaite et exhaustive, donc est omniprésent, mais sans être parfaitement saint, eh bien, vous et moi, nous n'aurions plus, au fond, aucune raison de l'appeler Dieu. C'est donc la sainteté qui est la perfection de tous ses autres attributs. Sa puissance, elle est une puissance sainte. Sa miséricorde est une sainte miséricorde. Sa sagesse est une sainte sagesse. Plus que tout autre attribut, c'est la sainteté qui le rend digne de nos louanges. Mais il existe davantage qu'un assentiment à sa sainteté. Il nous dit, soyez saints, car je suis saint. Il requiert, à juste titre, une parfaite sainteté de la part de toutes ces créatures qui sont douées d'un sens moral. Il ne peut pas en être autrement. Dieu ne peut ni négliger, ni approuver le moindre mal commis. Il ne peut abaisser un seul instant ses normes absolues de sainteté. Il est tenu de dire, soyez donc saints dans toute votre conduite. Le prophète Habacuc a déclaré, dans Habacuc chapitre 1 verset 13, tu as, ô Éternel, les yeux trop purs pour voir le mal. Tu ne peux accepter le spectacle de l'oppression. Il ne peut donc tolérer aucun péché de notre part. Parfois, nous tentons de justifier devant Dieu un acte que notre propre conscience réprouve. Mais si nous voyons la sainteté de Dieu sous son jour véritable, eh bien nous comprenons qu'il ne nous est pas possible de justifier devant lui la plus faible déviation par rapport à sa volonté parfaite. Il n'accepte pas d'excuses du genre, que voulez-vous ? Je suis fait comme ça. je ne peux rien y changer. Ou même, si on est un peu plus optimiste, nous disons, ça c'est un domaine de ma vie dans lequel je dois encore grandir. Non, 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 mes amis. Dieu ne fait pas de concessions aux petits défauts de notre caractère personnel. Il est vrai que nous, chrétiens, nous sommes justifiés exclusivement par la justice de Christ, mais nous ferions bien de méditer consciencieusement ce verset de l'Épître aux Hébreux qui dit « Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte dans laquelle nul ne pourra voir Dieu, dans laquelle, ou plutôt sans laquelle, nul ne pourra voir Dieu. » Hébreux, chapitre 12, verset 14. Je prends parfois des versets dans mes versions bibliques allemandes, puisque, évidemment, je suis de langue allemande. Chers amis, puisque Dieu est saint, il ne peut nous tenter à pécher. Que nul, quand il est tenté, ne dise « Ma tentation, elle vient de Dieu. » Car Dieu ne peut être tenté de faire le mal, et il ne tente absolument personne. Jacques, chapitre 1, verset 13. Aucun d'entre nous n'irait jusqu'à imaginer que Dieu nous pousse activement à faire le mal, mais peut-être avons-nous l'impression qu'il nous a placés dans une situation qui ne nous laisse pas le choix. Du reste, c'est ce que a cru le fameux roi Saül durant sa première grande campagne contre les Philistins. Notez 1 Samuel chapitre 13. Avant d'engager la bataille, eh bien Saül devait attendre 7 jours, c'est-à-dire le temps que le prophète Samuel vient pour offrir un holocauste et de demander la faveur de l'Éternel. Or Saül a attendu 7 jours, et comme le prophète n'arrivait pas, il s'inquiéta et il décida d'offrir l'holocauste lui-même. Il pensait qu'il n'avait pas le choix, et l'armée, elle s'impatientait, elle commençait même à se disperser. Alors les Philistins se sont rassemblés pour la bataille, et Samuel tardait toujours. Il fallait donc faire quelque chose. Dieu l'avait mis dans une situation dont il n'avait qu'un moyen de sortir, pensait-il. C'est la désobéissance aux ordres formels de Samuel. Il aurait simplement fallu avoir suffisamment de foi pour croire dans le prophète Samuel qu'il ne pouvait pas faire quelque chose qui serait contraire à ce que Dieu a prévu. Mais à cause de cette attitude-là, eh bien Saül a perdu son royaume. C'est terrible. 1 Samuel chapitre 13, versets 13 et 14. Et que en est-il de nous? Avons-nous parfois l'impression que nous n'avons pas le choix, qu'il nous faut nuancer un peu la vérité ou commettre un acte à peine malhonnête? Dans ce cas-là, nous disons en quelque sorte que Dieu nous incite à pécher et qu'il nous a mis dans une position qui ne nous laisse pas le choix. C'est délicat tout cela. Ça demande beaucoup plus de foi en la perfection de la sainteté de Dieu. Les gens qui obéissent à des ordres sont particulièrement vulnérables à cette tentation. Les chefs exercent souvent des pressions sur ceux qui dépendent d'eux pour qu'ils commettent parfois des actes malhonnêtes ou ayant des choses à faire qui sont à l'encontre de l'éthique. Or, comme Dieu est saint, forcément qu'il hait le péché. Haïr, c'est un mot si fort que nous n'aimons pas l'utiliser. Nous réprimandons nos enfants quand ils disent qu'ils haïssent quelqu'un. Mais pour ce qui est de l'attitude de Dieu envers le péché, seul un mot aussi fort que haïr peut en donner le sens véritable. Dieu déclare à propos de différents péchés en Israël, « Car toutes ces choses, je les déteste. » Zacharie chapitre 8, verset 17. « La haine est une réaction légitime face au péché. » En fait, plus nous devenons saints, plus nous haïssons le péché. David a dit, « Grâce à tes préceptes, j'ai du discernement, ou si je déteste toutes les routes du mensonge. » Psaume 119, verset 104. Si un homme réagit ainsi, pensez à l'attitude de Dieu, comme il est infiniment saint, alors il hait infiniment le péché. Nous disons souvent Dieu hait le péché. Il n'aime pas du tout, mais il aime par contre le pécheur. Ça, évidemment, c'est vrai, heureusement pour nous, mais trop souvent, nous passons rapidement sur la première partie de cette affirmation pour concentrer notre attention sur la seconde. Dieu déteste nos péchés. Il n'y a donc aucun doute là-dessus, même si nous les traitons de bagatelles, ou si nous les excusons, eh bien Dieu, il n'est pas d'accord. Il hait le péché tel qu'il est. Et voilà pourquoi chaque fois que nous péchons, nous faisons quelque chose que Dieu n'aime pas du tout, que Dieu hait. Il déteste donc nos pensées impures. Il déteste notre orgueil, notre jalousie, nos accès de mauvaise humeur, nos efforts pour prouver que la fin justifie les moyens. Il faut que nous nous imprégnions bien de l'idée que Dieu haït toutes ces choses-là. Nous nous habituons si vite, trop vite, à nos péchés, que parfois nous tombons dans un état de coexistence pacifique avec le péché, mais Dieu ne cesse pas un instant même de les haïr. Donc, chers amis, il faut que nous cultivions dans notre cœur la même haine du péché que celle que Dieu manifeste, c'est-à-dire une haine du péché en tant que tel et pas seulement comme une cause d'inquiétude ou de défaite. Je répète, il faut que nous puissions cultiver dans notre cœur absolument la même haine du péché que celle que Dieu manifeste, c'est-à-dire une haine du péché en tant que tel et pas seulement comme étant une cause d'inquiétude ou de défaite. Cette haine est à la racine de toute véritable sainteté. Il nous faut donc cultiver l'attitude de Joseph. Joseph qui a déclaré quand il a été tenté. Voyons, comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu? Genèse chapitre 39, verset 9. Dieu hait le péché où qu'il le trouve, aussi bien chez les saints comme chez les pécheurs. Il ne les déteste pas chez l'un et le tolère chez l'autre. Non, non, non. Il juge les œuvres de chacun avec impartialité. Notez la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 17. En fait, la Sainte Bible indique qu'il risque fort de juger plus sévèrement les péchés de ses saints que ceux du monde. David, il était un homme selon le cœur de Dieu. Notez Actes chapitre 13, verset 22. Mais après son terrible péché contre Uri, le Seigneur lui dit, « Eh bien, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison. » 2 Samuel chapitre 12, verset 10. Du reste, pour un acte d'incrédulité, Moïse a été exclu du pays de Canaan malgré ses nombreuses années de fidélité, de fidèle service à son maître. À cause de sa désobéissance, le petit Jonas a été précipité dans les horribles entrailles d'un poisson géant. Pendant 3 jours et 3 nuits, pour qu'il puisse apprendre à ne pas se soustraire aux commandements que Dieu donne. Notre cœur, voyez-vous, il est tellement trompeur que nous jouons parfois avec la tentation. Nous imaginons que nous pourrons toujours confesser le péché et demander pardon à Dieu. Mais ça, c'est très dangereux, car Dieu juge avec impartialité et il ne ferme jamais les yeux sur notre péché. Nous avons donc tort de penser qu'il ne va pas se déranger pour un péché qui nous semble totalement insignifiant. Non, 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 Dieu hait intensément le péché, quelle que soit sa nature ou son auteur. La contemplation régulière de la sainteté de Dieu et de sa haine du péché, cela est très utile pour nous dissuader de prendre le péché trop à la légère. Nous devons donc vivre ici-bas comme des étrangers dans la révérence et dans la crainte. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 17. Pour terminer, je dirais que je vous accorde que l'amour de Dieu pour nous, par Jésus-Christ, devrait être notre motivation essentielle à et pour la sainteté. Mais une motivation résultant de la haine divine, du péché et de son jugement, ça, ce n'est pas moins biblique. Avez-vous compris? Je répète pour que ce soit bien compris. Une motivation qui résulterait de la haine divine du péché et de son jugement, cela n'est pas du tout moins biblique. La sainteté de Dieu, cela est une norme terriblement stricte. C'est une norme absolument parfaite. Et malgré tout, nous sommes tenus de la respecter, car il nous l'impose. Bien qu'il soit vrai qu'il nous accepte uniquement par le mérite de Jésus-Christ, de ce fait, la norme divine pour notre caractère, pour nos attitudes, pour nos affections et pour nos actes, c'est et demeure toujours, soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. Et cette injonction est à prendre totalement au sérieux si nous voulons croître en sainteté. Nous arrêtons pour aujourd'hui là. Nous continuerons demain, Dieu voulant, pour la suite de cette série importante. Le Seigneur m'a donné quelque chose pour vous transmettre et aussi pour vous encourager, également pour votre enseignement personnel. Écoutez bien. Ayons tous de la reconnaissance pour la grâce de Dieu. Pourquoi cherchez-vous le repos lorsque vous êtes né pour le travail? Quel est l'homme du siècle qui a reçu les joies et les consolations spirituelles s'il pouvait en jouir toujours et de les refuser à la fin? Car les consolations spirituelles, elles surpassent toutes les délices du monde et toutes les voluptés de la chair. Toutes les délices du monde sont ou honteuses ou vaines. Les délices spirituelles sont eux seules, douces et chastes. Elles sont nées des vertus et elles sont répandues par Dieu dans les cœurs purs. Mais nul ne peut jouir toujours à son gré des consolations divines, parce que la tentation ne cesse, elle, jamais longtemps. Une fausse liberté d'esprit est une trop grande confiance en soi-même, et cela forme un grand obstacle aux visites d'en haut. Dieu accorde à l'homme un grand bien en lui donnant la grâce de la consolation, mais l'homme fait un grand mal quand il ne remercie pas Dieu de ce don et ne lui rapporte pas tout entier. Si la grâce ne coule point abondamment sur nous, eh bien c'est que nous sommes ingrats envers son auteur et que nous remontons point à sa source première. Car la grâce, elle n'est jamais refusée à celui, à celle qui la reçoit avec gratitude. Et Dieu, ordinairement, donne à l'humble ce qu'il ôte au superbe. J'aime une grâce qui me rend plus humble, plus vigilant, plus prêt à me renoncer moi-même. L'homme instruit par le don de la grâce et par sa privation n'osera s'attribuer aucun bien, mais plutôt il confessera son indigence et sa nudité. Donnez donc à Dieu ce qui est à Dieu, et ce qui est de vous, ne l'imputez que à vous. Rendez gloire à Dieu pour toutes ses grâces et reconnaissez que, n'ayant rien à vous que le péché, rien ne vous est dû que la peine du péché. Mettez-vous donc toujours à la dernière place, et la première vous sera donnée, car ce qui est le plus élevé s'appuie souvent sur ce qui est le plus bas. Les plus grands saints aux yeux de Dieu sont les plus petits à leurs propres yeux, et plus leur vocation est sublime, plus ils sont humbles dans leur cœur, pleins de la vérité et de la gloire céleste. Ils ne sont pas avides d'une gloire vaine. Fondés et affermis en Dieu, ils ne sauraient s'élever en eux-mêmes. Rapportant à Dieu tout, absolument tout ce qu'ils ont reçu de bien, ils ne recherchent point la gloire que donnent les hommes et ne veulent que celle qui vient de Dieu seul. Leur unique but, leur désir unique, c'est qu'il soit glorifié en lui-même et dans tous les saints par-dessus toutes choses. Soyez donc reconnaissants des moindres grâces et vous mériterez d'en recevoir de plus grandes. Que le plus léger don, que la plus petite faveur ait pour vous autant de prix que le don le plus excellent et la faveur la plus singulière. Si vous considérez la grandeur de celui qui donne, rien de ce qu'il donne ne vous paraîtra petit ni méprisable, car peut-il être quelque chose de tel dans ce qui vient d'un Dieu infini? Vous envoie-t-il des peines et des châtiments pour vous remettre sur le bon chemin? Recevez-les encore avec joie, car c'est toujours pour votre salut qu'il fait ou qu'il promet tout ce qu'il nous arrive. Voulez-vous conserver la grâce de Dieu? Alors soyez reconnaissant lorsque vous la donne, patient lorsque il vous l'ôte. Priez donc pour qu'elle vous soit rendue et soyez humble et vigilant pour surtout ne pas la perdre. Amen. Et chers amis, maintenant, nous allons prier ensemble. Ensuite, j'essayerai de vous mettre quelques chants d'un assez lointain passé. Prions pour l'instant. Dieu éternel et miséricordieux, vers toi montent nos louanges et nous te rendons grâce d'avoir accordé à ce monde périssable la révélation de ton royaume éternel, la révélation de ton règne sur tous ceux qui écoutent ta voix et qui accomplissent ta volonté. Nous te bénissons d'avoir fondé et maintenu pour le service de ton royaume par l'œuvre de Jésus-Christ et du Saint-Esprit l'Église chrétienne, qu'elle soit bénie pour lui avoir confié la mission d'apporter à tous les peuples de la terre ta véritable connaissance et ton merveilleux salut. Donne à toute ta chrétienté, et en particulier à nous-mêmes, la joie et la force de prophétiser ta victoire, d'annoncer ton règne et de travailler à ton avènement parmi tous les peuples qui ne connaissent pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est ainsi que les enfants des hommes, consolés et réjouis, pourront reconnaître en toi leur Dieu et leur Père, et trouver un refuge dans la vie comme dans la mort. Accorde-nous enfin la certitude radieuse que le jour viendra bientôt où l'Évangile triomphera malgré notre faiblesse et où ton règne s'établira dans tous les cœurs, sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Et chers-y maintenant, chers amis, je vais vous mettre quelques chants d'un lointain temps. C'est en 1954. Évidemment, il peut y avoir des ratés, malheureusement. Espérons le moins possible. Et n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Oh oui, il vous aime beaucoup plus que vous pouvez vous imaginer. C'est pas parce qu'il nous tire les oreilles qu'il nous aime pas, bien au contraire. Bien au contraire. J'ai été plusieurs fois entre la vie et la mort. Vous pouvez écouter mon témoignage si vous avez internet. 3 fois W, Bible explique en un seul mot, .ch. Autrement, vous pouvez téléphoner ou écrire à la pasteur Sabina Reichenbach à Genève et elle vous aidera à donner les indications qu'il faut pour que vous puissiez écouter tout ce que vous désirez. Figurez-vous qu'il y a plus de 4000 études bibliques, c'est inouï, et Dieu a été miséricordieux et bon au-delà de tout ce que j'ai mérité, car j'avais mérité l'enfer. Et le Seigneur m'a sauvé, il m'a racheté pour enfin le servir jusqu'à la mort. Et je lui ai promis, bien que j'ai maintenant passé 90 ans, de continuer de le servir jusqu'à ce qu'il me reprenne. Alors, n'oubliez pas que Dieu vous aime, et c'est de mon devoir de vous aimer intensément. Et maintenant, je vous embrasse tous, et je vous dis, oui, soyez bénis par et en Jésus-Christ. Et maintenant, voyons si ces chants d'un très lointain passé, 1954, puissent encore être audibles.
Oh, Michel.